Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Et ben voilà, il est 9h40, on est sur France Inter, on est ensemble pour l'instant M jusqu'à 10h.
Vous êtes en direct, allez-y.
Sacré documentariste, Christophe Otzenberger. Son regard délavé, ses cheveux en bataille, sa toute fumeur, ses documentaires politiques que nul n'a oublié. Ses films sur les gens, les petites gens et leurs petits rêves qui font de grandes vies. Otzenberger était en train de mourir, un cancer allait bientôt l'emporter. Alors il a voulu comprendre comment vit-on avec la maladie. Il a filmé ceux qui en sont atteints et ceux qui se savent condamnés. Il a voulu les écouter, il a voulu lui aussi se raconter. Ah, il était quand même pas bien sûr de pouvoir terminer son projet. Il a demandé à une autre réalisatrice de travailler avec lui. Elle l'a filmé, en train de filmer. C'est l'histoire d'un documentaire en train de se faire. La mort en ligne de mire. La nôtre, un jour, bien sûr. Celle des êtres chers que nous avons vus souffrir et partir. Nous tous, nous cherchons des mots pour approcher l'insurmontable. Otzenberger nous les donne ce soir sur Arte. Et il se marre, Otzenberger. Il clope et il se marre.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Voilà, et Christophe Otzenberger est décédé le 3 juin dernier à l'âge de 55 ans. Bonjour Stéphane Mercurio.
Bonjour.
Voilà, c'est émouvant, forcément.
Oui, c'est...
Même moi, je cherchais une façon d'écrire cette introduction sans être émue. Et c'est raté. Voilà, donc
ouais,
Stéphane...
Il fait toujours ça, Otzenberger.
C'est ça, il fait toujours ça. Donc Stéphane Mercurio, vous êtes vous-même documentariste, une documentariste capée. On a vu beaucoup de vos films. Vous étiez l'ami de Christophe Otzenberger. Donc vous co-signez Petits Arrangements avec la vie, qui est diffusé ce soir sur Arte à 23h30. On comprendra bien que ce ne sont pas des petits arrangements avec la maladie. Hein. Ce sont des petits arrangements avec la vie. C'est toujours la vie d'abord. Tous les mardis, à mes côtés, il y a Xavier Delaporte. Salut Xavier.
Bonjour Sonia.
C'est
bonjour.
L'émotion. Bonjour. Voilà. Et tous les mardis, Xavier nous ouvre sa fenêtre. La fenêtre de la porte sur le monde numérique.
C'était dimanche soir, l'équipe de France retrouvait son public pour la première fois depuis sa victoire en Coupe du Monde et le match contre les Pays-Bas fut suivi d'une fête assez joyeuse. La télévision nous a donné à voir beaucoup de plans sur le public et on a pu constater encore une fois que dans les tribunes, beaucoup de spectateurs brandissaient leur smartphone pour filmer. Pourquoi ? La question
mais
peut
pourquoi
être.
Pourquoi on filme?
Eh oui, la question peut paraître naïve, mais tout de même, c'est étonnant. Pourquoi filmer avec son smartphone un événement qui est filmé beaucoup mieux par les caméras de télévision? Quel intérêt d'avoir dans son téléphone des images mal prises, tremblantes, avec un son pourrave, alors même que la télé, et il suffit pour ça d'avoir lancé un enregistrement sur sa box, par exemple, vous offrira une archive de bien meilleure qualité. Alors, les esprits amers et narquois vous diront que c'est parce que les gens ne sont plus capables de vivre l'événement que par le prisme de leur écran, que c'est le signe d'un rapport au réel qui est vicié, une preuve supplémentaire de notre aliénation, etc. Bon, pas complètement faux, mais très insuffisant. Une autre explication vient immédiatement à l'esprit. Les gens filment parce que ça accrédite leur présence. On peut même supposer d'ailleurs que certains se filmaient en mode selfie, se filmaient eux-mêmes. En tout cas parce que c'est la preuve qu'ils y étaient, qu'ils ont participé, eux, à cet événement collectif. De ces images, ils peuvent faire, on imagine, un double usage à destination des autres. Regarde, j'étais au Stade de France, ou regarde, je suis au Stade de France quand ils diffusent en direct. Et un usage à destination d'eux-mêmes, se les repasser, par exemple, dans un moment pour se rappeler qu'on a vu ça, qu'on était là et que c'était bien. Bon. Mais je vous avoue que j'étais pas très satisfait par ces explications quand je suis tombé par hasard, par les hasards merveilleux de l'internet, sur une vidéo mise en ligne hier par Lina. Alors il s'agit d'une vieille interview de Federico Fellini, le grand cinéaste italien, et dans cette interview donnée en 82, le réalisateur de La Strada et de La Naveva notamment s'affligeait de ce que la télévision avait fait au cinéma avec sa voix si belle et reconnaissable.
Le plus grand tort que la télévision a fait au cinéma, ce n'est pas tant de lui avoir pris sa place en proposant plusieurs films le même soir, mais c'est de lui avoir fait perdre son autorité, son prestige et son mystère.
Alors d'abord je me suis dit, mais quel vieux réac ce Fellini. Alors, évidemment qu'il regrette le temps où les cinéastes avaient le monopole de l'image, évidemment qu'il regrette une télévision qui triture, charcute, diffuse sans style, souvent des images qui n'ont rien à voir avec l'esthétique du rêve que lui aimait tant dans le cinéma. Mais je n'ose même pas imaginer, me disais-je encore, ce qu'il aurait pensé de ces vidéos pourries qui peuplent nos téléphones et les réseaux. Il aurait détesté ces gens qui filment dans le stade, encore plus qu'il détestait la télévision. Et il en serait peut-être même venu à aimer la télé, le pauvre, s'il avait connu ça. Voilà ce que j'étais en train de me dire quand soudain j'ai eu une sorte d'illumination, pour le dire très modestement. Et si au contraire, ces gens qui filmaient dans le stade dimanche soir étaient les alliés de Fellini. Pas parce qu'ils produisent de l'art, mais parce qu'ils disent que l'image de télé est insuffisante. Et oui, parce que en filmant ce que la télévision filme bien mieux, ces gens disent qu'il y a quelque chose que l'image de télévision ne saisit pas et que, avec leur smartphone au bout du bras, ils peuvent saisir, même avec un son dégueu, même avec du flou et des tremblements, quelque chose qui va au-delà du témoignage, qui est de l'ordre de la subjectivité brute. Peu importe, se disent-ils, ou disent-ils peut-être, la qualité des images que je fabrique, mais elles sont de moi, elles sont à moi, ceux à qui je les montrerai auront accès au plus près de ce que j'ai vu, même si ce visionnage n'est pas supportable très longtemps. N'est-ce pas là, me disais-je, l'inverse exact de la quête télévisuelle. Et voilà, peut-être ces gens font-ils consciemment ou inconsciemment de l'anti-télévision, et Fellini, s'il avait vu ça, peut-être qu'il aurait adoré.
Federico, si tu nous entends, c'était donc La fenêtre de la porte et c'est à réécouter ou à podcaster sur franceinter.fr. Merci beaucoup Xavier, à mardi.
Merci, à mardi prochain.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, Stéphane Mercurio est mon invité. Son ami Christophe Hotzenberger se sait atteint d'un cancer. Il installe sa caméra dans la chambre d'un hôpital. Un hôpital où un monsieur vient lui raconter à quel point la maladie, sa maladie à lui, au monsieur, est très avancée. Un monsieur qui fait face à la mort comme personne, exactement comme à ce moment-là le réalisateur Christophe Hotzenberger. Extrait dialogue.
Je me souviendrai de vous, croyez-moi. Toute ma vie.
Ben, si elle est courte aussi.
Ouais. Mais avec un peu de bol, elle sera un peu longue. Mais... c'est pas sûr. Mais j'essaierai de me souvenir de votre dignité. Promis. Je vous donne ça, moi. Vous m'avez donné beaucoup, je vous donne que ça.
J'essaierai de me souvenir de vous toute ma vie. Et l'autre qui lui répond, bah, elle est courte aussi, puisque les deux se savent évidemment condamnés. Voilà des mots qu'on n'entend jamais, Stéphane Mercurio. C'est dû à cet effet de miroir qui est assez hors du commun. D'habitude, le documentariste ou la documentariste que vous êtes vous aussi regarde vivre ces personnages. Il ne vit pas ce que les personnages vivent eux-mêmes.
On est toujours sur une quête de ce qu'on est soi. Donc là, dans le film, voilà, il donne. C'est plus évidemment cette question-là, puisque c'est la question de la mort et qui. Mais c'est la question de la vie, donc elle nous concerne tous. Donc je crois que cet effet de miroir, on l'a toujours plus ou moins, parce que on est dans cette subjectivité. On est toujours dans quelque chose de. Mais l'extrait que vous avez choisi là, moi, je trouve que ça raconte vraiment Christophe et toujours ce double. À la fois cette façon d'être dans le drame que c'est, ce qui lui arrive, et en même temps avec toujours cette drôlerie, cet humour, cette vie qui est là, qui l'insuffle tout le temps et qui fait que voilà, on est vivant.
Alors, il faut raconter cet hôpital. Il est à Roscoff, en Bretagne. Il y a des malades atteints du cancer. Il y en a d'autres qui souffrent de la mucoviscidose, donc qui vivent depuis toujours avec la maladie. C'est très différent de ce que vit Christophe Hotzenberger. Ce sont des gens qui sont multigreffés, qui se savent condamnés depuis le plus jeune âge. Alors, il y a ceux qui ont voulu en finir. Il y a ceux qui profitent de tout. Il y a ceux qui auraient voulu avoir une vie différente, même pas pour eux, mais au moins pour leur famille. Quand je disais que c'est les petits arrangements avec la vie, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut.
Chacun fait comme il peut, et ce qui est, moi, enfin, ce qui était bouleversant et très fort, et parfois ça agaçait d'ailleurs Christophe, c'était qu'ils étaient dans cette puissance de vie de façon incroyable. Et lui aussi, en faisant un film, évidemment, il était là-dedans, même si il disait que parfois il se disait que les gens faisaient pas face à cette question-là, que lui, oui, mais. Il déjouait aussi la mort en faisant ce film et puis faire des films, je pense que ça a à voir avec ça. Donc ils étaient toujours sur une réponse qui nous désarçonnait, qui était drôle, qui était jamais, je crois, défaitiste et triste.
Mais en même temps, quand vous dites ça l'agaçait, c'est ça qui est absolument formidable dans ce film. C'est qu'il y a toujours de l'empathie chez Hotzenberger, mais il y a aussi des moments de rejet face à ce qui lui arrive lui et face surtout à ce que lui donnent ces personnages.
Alors est-ce que c'est moi qui supporte pas la maladie, encore moins que vous ? Parce que j'en ai filmé des corps quand même, mais est-ce que c'est ça qui fait que j'ai du mal à rentrer dans les pioles, ou est-ce que c'est parce que je sais pas faire ? Mais là, quand on est passé dans le couloir, j'avais pas envie, quoi. Le mec, il est sympa, il a des gants, il marche plus, il est en caoutchouc partout, il nous a dit. Genre, il a pas de bol, quoi. C'est genre de... Et c'est vrai que pour arriver à la question essentielle, comment tu vis avec ça? Moi, ils me disent, tu vas te galiser, j'y vais pas. Je préfère claquer tout de suite, quoi, tu vois. Mais partager, dire à un mec, je sais pas comment tu fais, moi, je le fais pas. Oh, ça veut dire que tu deviens donneur de leçons, c'est terrible, quoi.
Et un autre moment, Christophe Otzenberger vous dit, oh là 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 là, ils sont pas drôles, hein, vraiment, ils sont pas drôles, ils m'ont mis le bourdon, quoi, ils sont vraiment pas vivants, forcément, hein, ils sont tous en train de mourir. Le type là que j'ai filmé, j'ai carrément cru qu'il était mort, moi j'ai pas envie de finir comme ça. Et ça, c'est dans le film, ce rapport du documentariste à ses personnages.
Oui, c'est ça qui est très beau, parce qu'il y a les moments de rejet, puis il y a les moments où il a cette écoute qui fait que les gens lui parlent, et donc pour moi c'est vraiment un film sur ce que c'est que le documentaire.
Absolument.
Sur comment ça se fabrique, parce que l'extrait que vous venez de passer, c'est le début en fait. Mmh. On est à l'hôpital depuis quelques jours et Christophe, il y va pas dans les chambres, il n'arrive pas à y aller parce que effectivement, il faut y aller dans une chambre. Dire à quelqu'un, commencer un dialogue autour de ces questions-là, il faut se mettre un coup de pied aux fesses et franchir cette porte. Et donc, il raconte ça, ce qui est à la fois, évidemment, particulier à ce film, mais qui est aussi une question qui est toujours celle du cinéaste quand il doit rentrer dans quelque chose de l'intimité de l'autre, quand il doit partir à la rencontre de l'autre.
Alors quand vous dites c'est vraiment un film sur un documentaire et sur le documentaire en général, on va commencer par ce qu'il y a de plus artisanal dans le documentaire, quelque chose que manifestement vous partagez avec Christophe Otzenberger. Le documentaire, ça n'est pas que de la matière humaine, c'est aussi un type qui charrie des grosses caméras avec un pied, un œilleton et un chiffon jaune. D'ailleurs, la caméra, c'est un personnage à part entière du film. Et Christophe Otzenberger vous dit son immense plaisir à filmer, à la porter la caméra, à la toucher, quoi. Ouais, c'est charnel.
Ah oui, oui, oui. Et puis Christophe, bon là, c'est vrai que sur ce film-là, c'est une caméra assez fixe, mais Christophe adorait faire caméra épaule, il adorait, il faisait corps avec la caméra, il aimait bien les grosses caméras, moi j'ai des petites caméras, mais lui, il aimait bien avoir vraiment cet objet-là et faire des plans, et il faisait des plans magnifiques.
Voilà, quand il dit « Aujourd'hui, on aura fait un plan, on aura gagné l'apéro », et vous dites « Oui, il fait des plans magnifiques ». D'ailleurs, là, il tient un sujet magnifique, on est dans un très bel endroit en Bretagne, et pourtant, il aime pas. Il aime pas, il sait pas comment filmer. Ça devient même une sorte de running gag tout au long du film.
Ça m'inspire pas beaucoup, ici. Et je sais pas si ça raconte quelque chose, mais... Parfois, on espère que ça racontera quelque chose. Mais c'est vrai que la lumière est jolie. C'est... Mais je ne vous garantis pas que ce plan sera monté. Peut-être. Mais le vrai problème, c'est que j'ai pas filmé l'hôpital. Mais regarde, c'est quand même... C'est assez laid, quoi. En plus, il y a cette bagnole. Là, la fuite de la piscine, elle n'est pas laide. Mais c'est moche, quoi, ici.
C'est moche. On aura même du ta gueule, t'es mouette. Et des moments d'humeur massacrante. Vous montrez ça, vous montrez ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, ce qu'on filme, les moments où on...
D'abord, c'est Christophe et c'est toute sa mauvaise humeur parfois, sa drôlerie, cette façon aussi de nous faire rire, nous. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, l'endroit était... C'est quand même magnifique, tout Roscoff. Et donc, il disait, je veux un endroit de poésie. Et donc, on cherchait, on l'emmenait partout. Et à chaque fois, il arrivait sur les plages, il disait... « Oh non, mais là, c'est vraiment moche. » On le regardait, on se demandait avec Thomas Loubière, l'assistant, on se demandait ce qu'on pouvait trouver qui lui plairait. Mais il y avait quelque chose aussi, une quête qui, évidemment, qui était impossible. Oui. Enfin, donc, ça dit ça, donc ça dit tous ces plans. Et puis, ça dit aussi tous ces plans qu'on fait quand on filme, parce qu'on se dit, bah, ça va me manquer, il faut que je le fasse. Et puis, c'est chiant, on fait des plans qui servent à rien, on le sait, on les fait quand même, on s'ennuie, et voilà. Et donc, ça raconte
cette chose finalement très, très banale du cinéaste aussi, confronté à ça. Et puis,
Alors le cinéaste avec sa caméra, et en même temps Christophe Otzenberger, ça c'est très très émouvant dans ce film, il ne se cache jamais derrière la caméra, cette très grosse caméra. Elle n'est jamais un rempart, elle n'est jamais une barrière entre lui et ceux qu'il est en train de filmer. D'ailleurs, il sort souvent de l'œilleton, il s'écarte pour les regarder dans les yeux. Écoutez ce tout petit moment de dialogue entre lui et une jeune femme dont la maladie est très très avancée d'après ce qu'on comprend.
Vous n'avez pas des questions à me poser ?
Non, moi je t'écoute, je suis... Tu me touches profondément le cœur.
Ah bon ?
Ouais.
Vous allez me faire pleurer.
Non, c'est vrai, je sais pas, je t'écoute avec un plaisir, mais...
Ça se voit. Jamais j'ai vu quelqu'un m'écouter autant.
Alors, ça c'est... Vous n'avez pas des questions à me poser ? Bah non, je t'écoute. Ça d'abord, on se pose tous la question, comment vous faites parler vos personnages, puisque le, par essence, le documentaire n'est pas dialogué par avance. À vous de vous immerger dans un moment de vie. Mais en même temps, il faut le faire vivre, il faut le faire avancer. Vous, vous avez un film à faire.
Je crois que ça, enfin pour moi, ça raconte vraiment ce moment-là qui est, je crois, le moment que je préfère du film. Ça raconte et le travail de Christophe est vraiment le travail de documentariste, c'est-à-dire que c'est un travail d'écoute. Les gens parlent parce qu'ils sont écoutés. Et finalement, on n'écoute plus jamais. Enfin, voilà, dans ce monde, on n'écoute plus jamais personne. On fait du bruit. Y a espèce de brouhaha qui couvre toutes les paroles, surtout de ceux qui sont sans voix. Et là, elle écoute, et donc, voilà, elle parle, il raconte.
Et en même temps, à un moment.
Et il donne.
Voilà, il
de
donne.
Lui-même.
Il donne. Et en même temps, à un moment, Christophe Otzenberger, il vous dit, tu joues toujours un rôle quand t'es filmé. On va pas se mentir, c'est des conneries, l'idée qu'on oublie la caméra.
Bien sûr, on n'oublie jamais. Donc les gens disent des choses parce qu'il y a
une la caméra.
Ou ne disent pas certaines choses. Et puis on l'oublie quand même. Enfin, c'est un
mais
évidemment, elle était là. Voilà. Et lui, pareil, il avait envie de parler. Donc ouais. Il parle et raconte.
Alors il y a tous ces moments où il parle face caméra, où il n'est plus en train de faire le film. Et tous ces moments sont très importants. Il y a tout un passage sur la clope. J'aurais aimé vous le faire écouter, mais on n'a pas le temps. Tout ce moment où il vous dit qu'il fume depuis l'âge de 8 ans, que ses héros étaient des fumeurs, que les cow-boys étaient des fumeurs, que tous les révolutionnaires étaient des fumeurs. Et puis qu'ensuite, c'est devenu une addiction ultra violente. Donc, il y a aussi une forme de retour sur ce qu'il a tué et sur ce qui va le tuer.
Il y a, en fait, ce film, c'est à la fois... Enfin, c'est Christophe, le cinéaste, qui parle de malade. Hein, mais c'est un cinéaste au travail, quelqu'un de très vivant.
Ouais.
Et il y a ce double.
Voilà.
Et donc, il raconte que toute sa vie, il a eu des doubles comme ça. Donc, il y avait le double fumeur qui était ce héros de tout ce qu'il raconte. Et là, il est aussi sur cette chose un peu double, c'est-à-dire qu'il est à la fois malade et puis cinéaste, et c'est dans ce drôle d'équilibre, mais je crois qu'on a tous, quand on est face à ces choses-là, c'est-à-dire que c'est une façon de rester debout, de se protéger.
Vous savez quelle est la phrase du film qui m'a le plus émue, moi,
non,
Stéphane Mercurio ? C'est quand il se retourne vers vous et qu'il vous dit « Les bébés oiseaux, ça joue ?»
Waouh,
ça j'ai trouvé. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Vous regardez Petits arrangements avec la vie, c'est ce soir sur Arte. Et si c'est un petit peu trop tard, à 23h30, vous le regardez en replay. Merci Stéphane Mercurio.